Il est midi. C'est l'heure de connecter votre cerveau à l'Hippocampe, présenté par Fabien Olicard.
Et donc Bernard, on est aujourd'hui dans ton cerveau que tu vois partout autour de toi. C'est la première fois que tu vois ton cerveau.
Ouais, jusque-là, je regardais que de l'extérieur.
C'est un monochrome.
Ah ouais, mais à l'intérieur, c'est impressionnant, surtout ce petit truc-là. Là. Je ne savais pas à quoi ça sert.
Quelle est la sensation ou l'expérience qui, à un moment donné, tu sais que l'homme que tu es aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cet embranchement-là, à cet endroit-là?
Ah, c'était en 94, j'ai rencontré une médium qui m'a branché sur mon ange gardien et qui m'a raconté mes vies antérieures. Sur le coup, j'ai pris ça sur le ton de la rigolade en me disant « bon, on me fait un numéro et tout ». Puis au fur et à mesure qu'elle me racontait mes vies antérieures, j'avais l'explication de tous mes comportements actuels et je me suis dit « mais c'est génial ». Et quel que soit le système, c'est-à-dire que ça soit vrai ou faux, j'avais tout d'un coup, donc elle m'a raconté 11 de mes vies antérieures, et j'avais tout d'un coup 11 éléments qui expliquaient ma spécificité et des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah ben attends, c'est une vie parmi d'autres vies, donc je ne suis pas juste né et je vais mourir, c'est pas un film, c'est une série.
Okay.
Je ne suis que dans un épisode des aventures de mon esprit, qui s'est incarné dans Bernard Verber dans cette vie-là, mais qui va s'incarner dans autre chose après, qui s'est incarné dans déjà 111 vies, dont 11 qui m'ont été racontées.
Et ce qui est marrant en plus, c'est l'esprit critique au moment où tu dis, en tout cas que ce soit vrai ou faux, ça explique. Et du coup, c'est intéressant de se dire ça aussi, de se dire, quoi qu'il arrive, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à en retirer? Et apparemment, c'était le cas, quoi.
Je suis reparti, j'ai dit, écoutez, que ça soit vrai ou faux, ça m'importe peu. Ce que je vois, c'est que je suis arrivé, j'avais pas trop le moral, et je repars, j'ai une super pêche, et je vois le monde différemment.
Okay.
Parce qu'à partir de maintenant, j'ai compris, tous mes petits problèmes ne sont que les petits problèmes de Bernard Verber, qui sont des épiphénomènes. Le vrai enjeu est ailleurs, et le vrai enjeu, et ça me semblait évident, c'était l'évolution de mon âme. Et ça m'a inspiré, notamment, l'Empire des Anges. C'est-à-dire que j'étais déprimé parce que l'État d'Atonote avait été un échec commercial énorme. C'est-à-dire que mon éditeur y avait beaucoup cru. Ils avaient tiré 70 000 exemplaires, on a vendu 10 000, 60 000 sont partis au pilon. Donc pour moi, je me disais, ça y est, ma carrière est finie. L'État d'Atonote, c'est mon mauvais livre.
Qui est quelque chose qui a changé dans le temps, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'État d'Atonote soit un livre...
Précisément parce que j'ai écrit l'Empire des Anges. Okay. Et l'Empire des Anges, je dis, c'est le deuxième, la suite de l'État d'Atonote. Mais autant l'État d'Atonote a été un énorme échec, autant l'Empire des Anges a été une super réussite. Et l'Empire des Anges était enrichi de cette expérience avec cette médium qui s'appelle Monique Parent-Bacan, si elle m'entend, je la remercie. Elle est morte, hein. Mais donc, si elle m'entend, par son esprit, je la remercie encore. C'est tout d'un coup cette idée, un, que nous avons tous un ange gardien, deux, que nos vies ne sont que des épisodes, on est là pour expérimenter des choses. Là, j'expérimente la vie d'un écrivain chauve à lunettes en France. Voilà. Mais j'ai expérimenté avant d'autres vies dans lesquelles il s'est passé des tas de trucs extraordinaires. Et à partir de là, je me suis mis moi-même à faire des expériences de régression dans mes vies antérieures. Et j'y vais comme on avance dans un couloir, on ouvre des portes et je regarde un film. Et je ne suis pas dans « est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ?» Je m'en fous.
Ouais,
ce que je regarde, est-ce qu'il y a un rêve une histoire qui arrive, et si elle arrive, est-ce qu'elle expliquerait certains de mes comportements?
C'est quoi la vie antérieure qui t'amuse le plus?
Voilà, il y en a une qui m'a scotché. C'est d'abord, faut voir une chose, quand vous revenez dans la vie antérieure, je sais pas, tu l'as déjà fait?
Non.
Je te le ferai une fois. Et c'est qu'il n'y a pas écrit Constantinople 1354. Donc on ne sait pas où on est, et on ne sait pas quelle époque on est, mais non seulement ça, on ne connaît pas son nom. Okay. On débarque dans un monde comme si on débarquait dans un film, à une scène du film, mais les personnages n'ont pas été présentés. Donc là, je me suis retrouvé sur une plage en train de faire des ricochets dans l'eau et j'avais une petite jupette beige avec des petits motifs bleus et argentés. Et je faisais des ricochets dans l'eau. Et la première chose, quand je suis re-rentré dans cet ancien moi, c'était la sensation que ce mec était complètement cool. Et ça m'a fait prendre conscience que moi, j'étais tout le temps légèrement anxieux, légèrement avec des inquiétudes, des peurs, et que lui, il était complètement
libéré,
lâcher prise. Ouais. Donc ça a été une première sensation de fraîcheur, de « ah bon, on peut être décontracté à ce point ». Et la deuxième chose, c'est son âge, 821 ans. Donc j'avais les deux infos qui me sont arrivées simultanément.
Okay.
Et je parlais en même temps, c'est-à-dire que j'avais un hypnothérapeute qui est venu me guider.
Okay.
Et je lui dis, je suis très surpris de son âge, donc 821 ans, mais il est en pleine forme, il est même en meilleure santé que moi. Et il était bronzé, torse nu et en train de s'amuser à faire des ricochets dans l'océan. Et bien plus tard, après la séance, j'ai pu arriver à trouver l'endroit et l'époque en le refaisant.
Okay.
Et c'était dans l'Atlantide, mais l'Atlantide ne s'appelait pas Atlantide. Évidemment, Atlantide, ça vient, c'est un mot grec trouvé par Platon. Nous, on appelait ça Amempta. Okay. Et la ville où j'étais s'appelait Galles, mais ça, il a fallu que j'y revienne plusieurs fois. Par contre, dans le trip que j'avais fait, je pouvais sauter dans le temps et je me suis retrouvé à revivre le déluge.
Okay.
Et avec les sensations du déluge, je me rappelle, on avait un choix entre essayer de grimper sur la montagne en espérant que l'eau n'y arrive pas, essayer de fuir en bateau ou accepter de mourir. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec ma compagne, on était sur la plage. Donc, il y a cette autre scène qui est venue, c'est la vague gigantesque qui est arrivée, le tsunami, et après qu'on a été pris comme dans une machine à aller. Donc, toutes ces choses-là, je ne pourrais pas dire que c'est vrai. Ce que je sais, c'est que ça m'est apparu durant cette séance, et ça m'est apparu avec suffisamment de détails pour que je me rappelle, par exemple, la sensation de l'eau qui rentre dans mes poumons, et le moment où je lâche prise, et je me dis, bon, ben maintenant, c'est fini.
Pour aller dans ton réseau neuronal, comment tu évalues les possibles quand tu écris une histoire, quand tu inventes une histoire, sachant qu'en fait, il y a ce truc qui est horrible derrière, à savoir que tout est possible et dépend de toi. Je me suis dit, comment ça se passe dans son esprit, à un moment donné, pour se dire, voilà, je suis arrivé à un nœud que je viens de créer, je peux aller dans toutes les directions possibles, et là, je me dis, le travail de l'imaginaire, mais de l'analytique en même temps, il doit être un arbre des possibles fabuleux. Et est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, tout d'abord, j'ai une formation de joueur d'échecs depuis l'âge de 6 ans.
Okay.
Donc, pour moi, le futur... Tu joues aux échecs aussi, peut-être ?
Oui.
Donc, le futur, c'est quand on joue aux échecs, surtout quand on joue avec la pendule, il faut, dès que tu as fait un coup, tu imagines. Donc, l'autre va faire probablement ça, auquel je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Donc, ça, c'est une mécanique de cerveau qui est en permanence. C'est-à-dire, je vois tout en arborescence, exactement comme tu l'as dit, et comme fonctionnent les jeux d'intelligence artificielle appliqués aux échecs. C'est-à-dire, ils testent tous les scénarios, et après, ils évaluent les plus efficaces dans le court, le moyen et le long terme. Donc, ça m'a d'ailleurs inspiré un livre qui s'appelle « L'arbre des possibles », qui est une manière de gérer politiquement comme un jeu d'échecs avec toutes les possibilités dans le court, le moyen et le long terme. Quand j'écris un roman, je suis pratiquement en transe, c'est-à-dire que je me laisse porter d'un niveau de... Il y a un lâcher-prise total, mes personnages vivent. Donc, je vais écrire 400 pages en écrivant n'importe quoi. C'est les personnages qui font la décision et il n'y a aucun travail intellectuel.
Okay.
Il y a juste, je sais plus ou moins mon début, mon milieu, ma fin, que j'ai écrit dans une petite nouvelle qui explique le mécanisme. Mais à partir de là, je laisse aller mes personnages. Je vais bien définir mes personnages pour qu'ils soient solides, surtout mon capitaine de bateau, à savoir celui, mon héros. Et une fois que j'ai bien défini mon héros, je le pose sur le bateau, je le laisse sur l'eau et je regarde ce qui va se passer. Et je mets un maximum de courant pour qu'il aille vite, surtout qu'il aille vite.
Okay.
Donc là, là, au bout de 400 pages, j'obtiens une histoire qui est en général nulle, qui est ma première version, la version A, que j'oublie. Et là, j'ai compris pourquoi la version A ne fonctionne pas et comment on peut l'améliorer. Et je fais la version B qui, elle aussi, va faire 400 pages dans lesquelles je vais à nouveau laisser mon personnage agir, mais en tenant compte de ce qui s'est passé avant.
C'est
comme le film Un jour sans fin.
Ouais.
Vu qu'on a déjà vécu,
c'est un super parallèle. Ouais.
Vu qu'on a déjà vécu l'histoire une fois, on sait plus ou moins ce qui marche, ce qui ne marche pas et comment on pourrait l'améliorer. Je vais jusqu'à 11 versions complètes. Donc j'ai 11 romans entiers avec des situations différentes, des personnages différents, mais par contre toujours le même capitaine de bateau, le même héros et la même trajectoire, même si ce n'est pas la même fin.
Okay.
Donc ma technique consiste à laisser aller mon personnage, sachant que de toute façon, vu que je ne vais peut-être pas garder la version, si je me suis planté, ce n'est pas grave, je le verrai.
Ouais.
Mais je ne suis pas dans la recherche du meilleur chemin.
Ouais.
Je suis dans regardons où la pente, comme un liquide qui coule sur une pente. Regardons où la pente veut aller et je suis moyen observateur
après,
de la situation.
Tu peux mettre un petit barrage quelque part à la prochaine version, etc. Ok. Pendant un temps, j'avais lu ça de toi, on n'en a jamais parlé, mais où tu disais que tu écrivais en moyenne 4 heures par jour le matin. C'est quelque chose auquel tu t'astreins encore aujourd'hui ?
Puisque tu parlais de cerveau, je crois que la créativité, l'imagination, c'est un muscle.
Ouais.
Plus tu l'utilises, plus tu deviens... Non seulement performant, mais tu n'as pas besoin de mettre beaucoup d'énergie pour avoir beaucoup de résultats. Je pense que ça doit être pareil pour un pianiste.
Ouais.
Plus il joue du piano, plus il est juste dans l'émotion, il ne pense même plus à ses doigts. Ben, moi, je sens l'histoire. Et il y a un moment, précisément parce qu'il y a cette régularité, où je ne suis que dans le plaisir. Et je sais que plus j'ai de plaisir à la créativité, plus il va y avoir de plaisir à la réceptivité de la part des lecteurs. Ouais. Mais il n'y a pas de volonté d'écrire un bon livre, il n'y a pas de volonté de gagner des prix littéraires, il n'y a pas de volonté de faire bien. Il y a une volonté de m'amuser, de rendre mes personnages passionnants et de surprendre. Moi, je suis fasciné par la magie et je considère qu'un bon roman, c'est un tour de magie. Donc, ça veut dire, d'un côté, on fait une diversion et de l'autre côté, la manip ne doit pas se voir. Mais il faut que le lecteur, quand il arrive au bout, il se dise « si j'avais mieux regardé,
j'aurais pu le voir ».
Et c'est pour ça que je suis exigeant quand je lis un roman. Je ne veux pas qu'on fasse le coup du Deus Ex Machina, c'est-à-dire qu'il y a un élément qu'on ne vous avait pas donné au début qui explique tout. Là, je pense que ça, c'est triché. Ouais. Il faut qu'on donne tous les éléments au début. Et c'est une course entre l'écrivain et le lecteur. Il faut que l'écrivain ait toujours un coup d'avance et qu'il surprenne le lecteur. Et donc, normalement, un lecteur surdoué doit pouvoir découvrir la fin ou voir venir le coup final. Et c'est à nous de faire une fin la plus extraordinaire possible. Je crois que les profs de français, en nous mettant des notes sur nos rédactions, nous ont créé une sorte de prof de français permanent qui est dans notre tête et qui dit « c'est pas assez bien écrit, ça fonctionne pas ». Et là, il faut juste faire taire ce prof de français. J'adore les profs de français au demeurant, mais là, pour créer un roman, il faut juste être dans le conte pour enfants. Mmh. Et le conte pour enfants qu'on améliore, et au final, dans tous les contes pour enfants, souvent, il y a des fins surprenantes. Oui. Et il faut retrouver ce niveau de surprise.
Quel est le souvenir le plus récent où tu t'es dit « je me souviens plus de tel moment de ma vie » Et moi, je sais qu'en plus, ta mémoire, elle est amusante.
Ouais, non, j'ai une mémoire en pétrole, alors je ne sais plus par où commencer. Bon, d'abord, il faut voir que quand je fais des dédicaces, il y a des fois des lecteurs ou des lectrices qui apparaissent, qui me racontent, qui arrivent et ben, « vous ne vous rappelez pas, on se connaissait, on a dîné, on a mangé, on était avec un groupe d'amis. » Ils me racontent des scènes. C'est pas en stock dans ma mémoire. Et je sens bien qu'ils sont vexés dans le style « je les ai oubliés », mais... ils ne se rendent pas compte que je vois déjà tellement d'humains. Il y a qu'Amélie Nothomb qui va se rappeler de la tête de tous ses lecteurs. Moi, par moment, il y a des gens de ma famille que je n'arrive pas à reconnaître.
Donc, c'est l'alcool, Bernard.
Et même déjà une personne qui est moi-même, le matin, des fois, j'arrive, je me débarbouille, je regarde dans le miroir, je dis, tiens, il y a quelqu'un chez moi. Ah merde, c'est moi-même. Ouais. Ouais, mais je stocke mal les prénoms. Alors, les gens qui ont deux prénoms, genre Michel, François ou des machins comme ça, laisse tomber. Les gens qui ont des doubles prénoms composés, Jean-Claude, tout ça, tout ça, j'oublie. Et les gens qui n'ont pas de caractéristiques dans leur visage, j'ai tendance à les oublier. S'ils n'ont pas une barbe bizarre, une coiffure bizarre, tu vois, tu mettrais une crête bleue.
Bizarrement, déjà, on ne la verrait pas aujourd'hui.
Sinon, si je ne trouve pas un détail dans le vêtement ou dans le visage, j'ai tendance à l'oublier. Par contre, je me rappelle des histoires. C'est-à-dire, lorsque les gens me racontent leur vie, et leur vie m'intéresse, je retiens ça comme s'ils me racontaient un roman. Donc, souvent, les gens sont surpris. Je vais offrir une totale écoute dans laquelle ils vont raconter tous leurs problèmes d'enfance, leurs problèmes, et je vais les écouter. Et je vais être passionné par ça. Et je peux me prendre une heure à écouter quelqu'un qui me raconte sa vie. Mais ça se peut que je me rappelle de toute l'histoire, mais je ne me rappelle pas de la personne ni du nom.
Mais en fait, ce qui est une vraie mémoire épisodique, parce qu'en vrai, le cerveau, on le sait depuis l'Antiquité maintenant, ne traite pas différemment les informations qui lui viennent de l'imaginaire que des informations qui viennent des expériences réelles qu'il a vécues. Pour lui, un souvenir est un souvenir qu'il était fantasmé ou qui viennent de tous nos sens et de toutes nos perceptions. Ce qui fait que, comme la mémoire, son ingrédient principal, c'est l'attention, comme toi, tu es très intéressé par les histoires, tu t'offres une vraie écoute, donc une vraie attention, tu vas visualiser sûrement, ressentir, entendre des sons, bref, mettre en scène dans ton imaginaire l'histoire qu'on te raconte, et du coup, c'est bien stocké, il n'y a pas de souci. Un prénom, un visage, sont des données brutes, aucun intérêt du coup. Et ça ne rentre pas en mémoire épisodique, et ça, tu ne le rentres pas, parce qu'il n'y a aucun intérêt, c'est de la donnée en fait, c'est du rationnel. Donc...
J'avais déjà pas de mémoire quand j'étais petit, donc pour les récitations par cœur, laissez tomber, les années des batailles, laissez tomber aussi, les noms des fleuves russes, pareil, tout ça, ça c'était pas stocké. Donc, je développais mon imagination pour compenser mon manque de mémoire, c'est-à-dire, je développe ma capacité à voir le futur, parce que je ne suis pas capable de bien mémoriser, en tout cas, ces éléments qu'on réclame à l'école du passé. Et j'étais plutôt un élève moyen, voire mauvais, selon que le prof réclamait beaucoup de récitations par cœur ou beaucoup de rédactions sur sujet libre.
On va passer à la dopamine. Et ma question, elle a trait avec ton spectacle. On parle souvent de toi, on t'associe à tes livres, c'est normal, c'est ta plus longue et grande œuvre. Mais depuis quelques années, tu as vraiment eu le désir de rencontrer le public et d'avoir un sentiment d'avoir des choses à vivre dans le temps réel sur scène. Je trouve ça évidemment, moi, passionnant. Tu t'es mis à la scène et donc les trois questions toutes bêtes. Quand, pourquoi, comment ?
Il y a un moment, je me suis aperçu que dans mon métier de romancier, et même si je faisais des dédicaces et même si je fais des conférences, en fait, j'étais quand même très solitaire. J'avais une structure familiale, puis une structure de création qui ressemble à celle d'un moine, c'est-à-dire en effet 4 heures le matin devant un ordinateur, c'est un boulot de moine. Et après, je vois les gens, je zappe très très vite. Je me suis dit, il faut trouver autre chose dans lequel j'ai un challenge à relever. L'origine, c'est Patrick Beau, qui est aussi un YouTuber, qui faisait la veillée.
Que vous connaissez sous le nom peut-être d'Axolot.
Qui a fait un truc qui s'appelait la veillée. Le principe de la veillée, c'est que quelqu'un monte sur scène pour raconter quelque chose d'extraordinaire qui lui est arrivé. Et vu que c'était les premières séances, il m'a dit, est-ce que tu as envie de raconter une histoire ? Alors j'ai dit, ben oui. Et je suis monté sur scène et j'ai raconté comment j'ai failli me faire assassiner quand j'avais 13 ans en colonie de vacances, en Corse, par quelqu'un qui me prenait pour quelqu'un d'autre. Et je me suis aperçu qu'au moment où je faisais ça, je prenais énormément de plaisir et que je voyais tous ils étaient comme ça, avec les yeux. C'est-à-dire, ce qui me manquait dans le métier de romancier, c'est savoir l'état...
Quelle émotion je transmets.
Et là, je voyais 400 personnes qui étaient en train de me regarder. Et vu que je riais de la situation qui était terrible, je voyais que ça les faisait rire aussi. Ouais. Et je me suis aperçu que... il s'est passé un truc, le sentiment d'être à ma place. Je suis conteur par écrit, mais je suis aussi conteur en oral. Ouais. Tu es connecté à une collectivité, donc tu reçois de l'amour et de l'énergie. Et je comprends que tous les gens qui font des concerts, au bout d'un moment, ils soient drogués. Ce que tu dis, la dopamine, c'est-à-dire les applaudissements, les regards qui balancent de l'affection. Et puis ce moment où on salue et ça y est, tout a été fait, voilà.
Merci pour tout, Bernard. Merci pour aujourd'hui. Vous retrouverez dans la description un lien vers le dernier livre et également vers le spectacle et vers tous les liens que je trouverai intéressant de mettre. Comme ça, c'est encore plus simple pour ça. Merci, Bernard. À la prochaine.
L'Hippocampe. Faites tremper votre cerveau à midi, du lundi au samedi, en direct sur Storm et à 13h sur toutes les plateformes.